Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Notre cours ce soir devrait être, je l'espère, mais je ne suis pas sûr d'y arriver, la fin de notre petit cycle, le premier cycle que nous souhaitions faire sur le problème du couple. Nous avons consacré une première séance à la compréhension de la définition selon la Torah la plus proche des sources de la femme. Nous avons essayé d'expliquer la semaine dernière l'importance, la sainteté, la grandeur du mariage. Je voudrais ce soir vous parler de la vie commune. Alors je salue tous nos amis du Canada, de France et d'ailleurs, qui nous rejoindront tôt ou tard, et dire à tout le monde que c'est un sujet délicat, mais trop important pour l'occulter. Je n'ai pas, je vous le dis tout de suite, la prétention de tout dire sur la question. Elle est complexe, elle est lourde, elle est délicate, mais elle me paraît tellement grandiose, je crois que si vous avez une des raisons d'être profondément fier de la Torah, c'est celle-ci. Et voilà pourquoi je me fais un devoir et un plaisir, simultanément, de vous en parler. Vous savez qu'il y a dans notre monde des sujets que l'on appelle tabous. Tabou, dans la croyance populaire, ça veut dire des sujets dont on ne parle pas. J'ai été frappé de ce que, en consultant, il y a quelques semaines seulement, un ouvrage d'instruction religieuse, publié par des rabbins français éminents, juste au début de ce siècle, qui parlait de tout, du Shabbat, des prières, des lois alimentaires. Voilà que, abordant le problème de la nida, du migvé, du couple, terme que je vais définir, l'auteur disait tout simplement, nous invitons le lecteur à interroger son rabbin pour comprendre ce que la Torah dit sur ce sujet délicat. Jusqu'à il y a quelques années, pratiquement aucun ouvrage n'en parlait en dehors des sources hébraïques. Aujourd'hui, les ouvrages sont nombreux, mais pour ma part, j'ose le dire, ils sont rarement bons. Je m'explique. Des codes de loi qui codifient les règles de Nida existent. Certains sont très précis, sont relativement exhaustifs, mais il manque ce que nous allons essayer, nous, ce soir, de définir, l'esprit dans lequel s'accomplit le geste, l'esprit dans lequel la mitzvah est transformée en une réalité. Et c'est tellement important de ne pas échouer cela que je crois qu'aucun livre ne peut être écrit sur cette question. Pour ma part, j'ai toujours refusé d'accorder mon concours, mon patronage, que vous voudrez, une préface, à ce type d'ouvrage, pour la raison que je viens d'indiquer. Il est impossible, à part techniquement, de connaître les détails de l'exécution d'une mitzvah pour quelqu'un de déjà convaincu, de parler de ce domaine sans être déjà pénétré de ce que j'appellerais la loi orale. Et pourquoi cela? Pour la Torah, c'est clair, et je vais le dire dans mon introduction, il n'y a pas de tabou. Il ne faut pas confondre tabou et pudeur. La Torah est d'une franchise extrême. Ouvrez-la, lisez-la, vous verrez comment son langage est sans détour. Elle évoque avec une extraordinaire clarté toutes les situations. Son génie, c'est de le faire sans grossièreté ni obscénité. Je vous avais dit en son temps que la raison pour laquelle l'hébreu s'appelle la Lashon HaKodesh, la langue sainte, ce n'est pas seulement parce que elle a été la langue de la révélation, mais aussi parce qu'en hébreu, on ne sait pas dire une grossièreté. On ne peut pas dire une obscénité. Toutes les grossièretés et obscénités que vous écouterez à Tel Aviv ou ailleurs sont des néologismes, des créations récentes. Mais en hébreu, par exemple, quand on parle d'un rapport sexuel, la Torah dit « Et il connut sa femme, Yada ». Connaître en hébreu, c'est le terme le plus élevé, spirituel, que l'on possède pour définir une relation d'intimité. Ou bien encore, on dira « bah, il est venu vers elle, en elle, mais jamais autre chose ». Ce n'est pas que l'hébreu soit épeur du sujet. Je vous l'ai dit, non seulement il l'évoque, mais il demande qu'on l'évoque dans toutes les circonstances. Prenons un exemple liturgique. Le jour de Kippour, au moment où il y a le plus de monde dans les synagogues, la lecture de la Torah de Kippour, c'est la lecture de tous les interdits sexuels. C'est en rapport direct avec la journée, bien évidemment, journée dans laquelle chacun s'efforce de s'élever au-dessus des contingences matérielles, d'oublier son corps, on jeûne, on se prive, etc. Et notamment l'intimité conjugale y est interdite. Et voilà qu'on nous parle en plein milieu d'une salle comble à Mincha de Kippour de tous ces interdits. Autre exemple, dans le Talmud, on dit qu'il n'y a jamais de questions indiscrètes. Nulle part. Par contre, la Torah, oui, et c'est ce que nous allons faire ce soir, s'exprime avec une extraordinaire pudeur. Pourquoi la pudeur? Voilà un mot qui n'est pas très à la mode. Aujourd'hui, au contraire, si vous voulez être dans le vent, il faut vous exprimer de façon crue. Je connais même un certain nombre de rabbins qui exploitent le langage avec beaucoup de finesse pour justement exprimer des choses en montrant par là qu'ils veulent être modernes. Moi, j'ai toujours pensé qu'un authentique maître de la tradition juive ne devait pas cacher son message derrière des mots qui ne veulent rien dire, ni de falsifier pour des raisons de forme. Le plus dur, c'est de dire vrai sans jamais choquer. Et ça part de trois principes. La Torah 1, c'est que la sensibilité de chaque être humain est différente de celle de son prochain. Dans cette salle, ou partout ailleurs, là où nos cassettes arriveront un jour, je sais que ceux qui nous écouteront, qui nous verront, n'auront jamais, même assis ensemble, la même perception, parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité des choses. C'est impossible. Alors comment peut-on parler vrai à des milliers de personnes à la fois? Le discours public est obligatoirement un discours falsifié, pris comme cela. Voilà pourquoi nos maîtres disaient que on ne parle pas, c'est la Masechet Hagiga, un texte du Talmud qui dit, de ce que l'on appelle en hébreu Sitrei Arayot, les secrets de tous les interdits sexuels, devant plus de trois personnes. Mais la raison, la deuxième, peut-être la plus profonde, c'est qu'en fait la Torah a peur que l'homme ne la comprenne pas. Et je dirais que dans toute entreprise éducative, le vrai traumatisme d'un enseignant authentique, c'est la peur de ne pas être compris. Vous avez des gens qui, en sortant d'un cours, diront, ils ont assisté au même cours. T'as entendu ce qu'il a dit? Et vous verrez, chacun a compris autre chose. Pourquoi? Parce que finalement, un cours, c'est un dialogue. Même s'il n'y en a qu'un qui parle, l'autre qui reçoit, reçoit différemment suivant ce qu'il est. Dans le prisme de sa personne, le rayon de lumière qui est projeté est diffracté, réfracté, compris, transformé, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Alors si dans tous les domaines de la vie, ça peut ne pas avoir de conséquences graves, dans ce domaine-là, ça peut en avoir de dramatiques. Pourquoi? Parce que la Torah lie la construction du monde, j'ai bien dit la construction du monde, à la compréhension de cette question. Enfin, la troisième raison pour laquelle la Torah est si pudique, c'est qu'elle estime que l'exhibitionnisme que l'on constate aujourd'hui va permettre la prolifération des amours pervers. Ça veut dire qu'on va arriver à une confusion des amours. On ne sait plus qui aimer, comment aimer, quoi aimer. Ça veut dire que, à force de parler de l'amour, ce dont tout le monde parle, les films, la télévision, les romans, les feuilletons, les magazines, on a eu l'impression qu'on s'est complètement décomplexé, que toutes les frustrations qui avaient été contenues pendant des siècles ont été enfin libérées, et qu'on va pouvoir en parler franchement, librement, etc. Mes chers amis, le spectacle de la vie d'aujourd'hui devrait d'abord nous intimer une profonde conviction, c'est qu'on n'a pas résolu le problème. Mieux, c'est pas comme ça qu'on va le résoudre. Comment va-t-on le résoudre? Par une compréhension, pardonnez-moi d'être un petit peu prétentieux pour la Torah, c'est pour elle et par elle, et grâce à elle que j'existe et que je parle. Je voudrais dire pour elle et à son crédit, que s'il y a bien un domaine dans lequel elle n'a rien à apprendre de personne, c'est celui-ci. Et je vais m'en expliquer tout de suite. Le but de ce cours, c'est pas de vous enseigner. On ne pourra pas approfondir ce soir, c'est clair, je viens de dire pourquoi. Mais je voudrais vous donner envie de le faire. Si en partant d'ici, il y a des gens qui ce soir se diront, j'aimerais comprendre mieux, j'aimerais approfondir, étudier ces questions, eh bien mes chers amis, pour moi ce serait une immense joie, et je suis sûr que vous me la donnerez. Alors pourquoi est-ce qu'on est tellement, entre guillemets, gêné d'en parler ? Parce qu'on vit dans un monde, il ne faut pas se le cacher, qui est un monde d'obédience occidentale de connotation théologique chrétienne, dans lequel l'absence originelle du rapport sexuel a cristallisé toutes les frustrations. Je m'exprime. Le fait que le fondateur de la religion chrétienne soit né apparemment sans référence au rapport sexuel est une volonté explicite de dire que ce rapport n'est pas nécessaire et que mieux, il est quelque part dégradant. Et que si un homme veut arriver à un très haut degré d'élévation spirituelle, il doit pouvoir s'en abstenir, il doit le refouler. Résultat, quand on voit trop haut, on finit par tomber bien bas. C'est le risque. Que propose le judaïsme ? D'être à cet égard d'un extraordinaire naturel. Lorsque, avec un petit enfant, on évoque le problème de la venue des enfants au monde, il faut parler ni des choux, ni des cigognes, ou d'autres subterfuges éducatifs. Lorsque la Torah emploie des images, ce sont des images vraies. Connaître sa femme, c'est aussi ça. La Torah n'a pas trahi quand elle a dit « Et Adam connut Ève ». Parce qu'il y a une forme de connaissance qui passe par l'intimité physique. Mais est-ce tout ? Et c'est là la question. Là où les hommes se trompent, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que ce moyen de connaître. Que le corps est tellement envahissant qu'il n'y a que lui qui existe. Or, la conception de la tradition juive, je vais vous la donner à partir d'une image. L'image qui est employée dans notre tradition, c'est celle d'une bougie que l'on allume. Et l'une des symboliques du Shabbat est celle-ci. Le Shabbat, c'est le jour dans lequel on est prédisposé à comprendre la vraie nature des choses. Pourquoi ? Parce que c'est un jour qui est un alliage subtil entre le matériel et le spirituel. On se rend à la prière, on étudie davantage, mais on s'habille, on se lave, on mange, on parle, on est détendu, on a une vie familiale, conjugale, on a une relation physique à la hauteur de nos ambitions spirituelles. Et c'est là la difficulté, et je dirais la grandeur et la beauté du Shabbat. Le Shabbat, entre guillemets, était pratiqué par les Phéniciens. Vous savez ce que c'était ? Une horreur. Un jour dans lequel l'homme prostré vouait au Dieu au pluriel toute son énergie. Il était même interdit d'y allumer de la lumière. C'était un jour de prostration. Et rappelez-vous ce que vous avez étudié peut-être à l'école. Dans l'Antiquité, les dieux étaient dévorants. Devant les dieux, l'homme n'existait plus. Quand une journée était spirituelle, l'homme en était absent. Quand une journée était matérielle, les dieux en étaient absents. Qu'est-ce que le Shabbat ? La rencontre entre Dieu et l'homme. L'Echa Dodi, l'Ikrat, Kala, symbolique de la femme. Viens mon bien-aimé, sortons à la rencontre de la fiancée. Ça veut dire que la symbolique qui est utilisée pour nous faire comprendre l'union entre le corps et l'âme, c'est le rapport entre un homme et une femme. Alors qu'est-ce que c'est qu'allumer une bougie? C'est prendre une mèche, l'imbiber d'huile et y mettre une lumière. La mèche, c'est le corps. Le corps, en soi, c'est pas très bon. D'ailleurs, vous voyez, même en français, on dit mèche, c'est ce qui donne méchant. D'accord? En anglais, je crois qu'on dit weak pour la mèche. Méchant, ça se dit wicked. La racine de la mèche, c'est la méchanceté. Lorsque le corps est corps, il est dangereux. Qu'est-ce que l'huile? C'est l'âme. En hébreu, ha-shemen, huile, c'est les mêmes lettres que neshama, l'âme. Donc, qu'est-ce qu'un homme? C'est une mèche qui est imbibée par de l'huile. C'est un corps qui est pénétré par son âme. Ça, je ne peux jamais oublier. Quelles que soient les situations dans lesquelles je vis, je vais effectuer les besoins les plus élémentaires, naturels. Vous croyez que j'ai honte? Si je m'en cache, c'est par pudeur, pas par tabou. Ça n'a rien à voir. Lorsque la Torah demande et parle même de ces questions-là, comment effectuer ses besoins naturels, dans quelles conditions, avec quelle pudeur, pourquoi? C'est pour ne pas que le côté animal prenne le dessus, c'est tellement facile. Et là, je voudrais vous expliquer, si j'ai le scrout, le mérite de le faire en deux mots, pourquoi? Parce que tout ce qui ramène au corps, mes chers amis, tout ce qui est fonction naturelle, le sommeil, la digestion, l'évacuation, le rapport, connote quoi? Connote une dimension animale. Pourquoi? Parce que l'animal est seul. L'animal est isolé. L'animal accomplit une fonction. Il se déconnecte de sa signification. Un animal ne réfléchit pas. Il agit par instinct. Il agit par réflexe. Il agit par pulsion. Chaque fois que je dors, j'ai un peu honte. Et les gens qui n'aiment pas être vus dans leur sommeil, on les comprend. Il y en a d'autres qui s'exposent. C'est vrai. Mais peut-être que déjà chez eux, la dimension animale a pris le dessus. Quand on laisse le corps vivre tout seul, sa fonction, il y a une sorte d'inhibition qui s'opère. Je suis comme un peu bloqué par cette fonction, comme si je devais m'y résoudre, je n'arrive pas à m'en débarrasser, j'ai presque honte de vous avouer que j'ai faim, que je suis obligé de manger, que je dois me rendre aux toilettes, ou que j'ai tel ou tel besoin, que je dois respirer. Quelque part, j'avoue ma dépendance. J'aimerais pouvoir vous montrer que je suis un surhomme. On sait que le pharaon, par exemple, dans l'Antiquité, faisait croire qu'il était un dieu. Et l'une des preuves qu'il apportait à son affirmation, c'est qu'il n'avait jamais besoin de se rendre aux toilettes. C'est ainsi consigné dans les livres d'Antiquité. Que faisait-il, ce malin pharaon? Il se levait très tôt le matin avant que tout le monde ne soit debout et se rendait au Nil pour y effectuer ses besoins. C'est là qu'il a rencontré Moïse. Il était un peu gêné. Il a dit, tiens, vous aussi. Et c'est alors que, d'un coup, la relation est devenue ce qu'elle est devenue. Celle d'un homme investi d'un vrai pouvoir divin et celle d'un Dieu investi tout simplement d'une mission humaine. Et c'est alors que s'est déroulé le cataclysme entre Pharaon et Moïse. Mais ça, c'est un autre sujet. Et lorsque on comprend que toute référence au corps va être une référence un petit peu dégradante dans la mentalité courante, on voit que la Torah a voulu, chose étrange, que l'on procède à une réhabilitation du corps. Mes chers amis, c'est moi, Rabbin, qui viens vous dire que la Torah nous impose de nous préoccuper de notre corps. Elle nous dit « tu n'as pas le droit de l'oublier ». Il est ce que d'un mot très beau de la Gemara, Nartik Kadosh, un écrin saint. Ça veut dire que le corps ce n'est qu'un écrin, mais un écrin saint, de sainteté. Pourquoi? Parce qu'il est le réceptacle de l'âme. C'est comme le parchemin, vous savez ce que c'est qu'un parchemin? C'est un morceau de peau d'animal. Mais quelle extraordinaire sainteté est-il capable de véhiculer? Regardez ce qui se passe quand vous entrez dans une synagogue dans laquelle on sort la Torah. Une communauté d'êtres humains se lève. On embrasse la Torah. On la vénère. On ne l'adore pas. Le jour où elle s'use, on l'enterre avec tous les égards. Ça veut dire que l'animal est devenue sanctification. Imaginez ce que doit être un homme, mais il n'y a rien de plus saint. Nos Haramim disent que l'être humain, c'est la création divine la plus sublime du cosmos. Vous vous rendez compte combien il faudrait aimer le corps humain? Si nous n'avions pas peur de l'idolâtrie, mais on ferait chacun de soi une photo et tout le matin on s'embrasse. Il y en a d'ailleurs qui le font. Ils se regardent dans la glace, ils se trouvent extraordinaires. Vous voyez, je ne crois pas que Dieu ait fait une créature aussi sublime que moi. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ça veut dire que la Torah ne va pas pousser au narcissisme, elle ne va pas flatter notre ego, elle ne va pas faire de nous des idolâtres de notre corps. Je ne parle pas de tous ceux qui, tous les matins, au Bois de Boulogne, de Vincennes et d'ailleurs, dans les salles diverses de sport, vont cultiver leur musculation ou la ligne de leur corps. C'est pas ça. Ça veut dire que ce corps, l'entretenir, se préoccuper de lui, constater son existence, c'est pas dégrader sa mission, c'est l'ennoblir. C'est au contraire véritablement prendre en compte. C'est lorsque je vais nourrir ce corps, que je vais le soigner, que je vais l'épanouir, que je vais me rendre compte de la grandeur de ce que Dieu a voulu dans ce monde. Il n'a pas voulu créer des anges, il a voulu créer des âmes investies dans des corps. Autrement, il ne l'aurait pas fait comme ça. C'est clair. Donc pour lui, la mission d'un homme qui réussit, c'est celle d'un être qui ne méprise pas son corps, mais qui ne l'idolâtre pas. Trouvez-moi une civilisation dans laquelle on ait réussi cela. Vous y êtes, c'est le judaïsme. La seule prétention du judaïsme, c'est d'avoir su glorifier l'esprit sans jamais mépriser le corps. Donc, lorsqu'on aborde la sexualité, il ne s'agit pas de l'aborder comme un problème secondaire. Il ne s'agit pas non plus d'en faire le point principal de la vie. La finalité de l'existence, vous vous souvenez, nous l'avions dit, je crois, avec une certaine émotion la semaine dernière. Dieu m'a donné une âme, je ne l'ai pas voulu. Moi, je n'ai pas demandé à naître. On m'a fait naître. C'est mes parents qui ont été bénis par Dieu, qui a bien voulu mettre une étincelle de lui dans un morceau de chair. Et un homme est né. C'est l'histoire de chacun d'entre nous. Cet homme, maintenant, il est là, en situation. Son destin ne lui appartient pas, mais sa vie, il l'a construit. La construire, c'est agir à chaque minute dans la pleine conscience de cette contradiction. Comment je peux faire en sorte que mon âme, dans son parcours terrestre, ne se pervertit pas? Or, le lieu dans lequel la perversion va l'attendre, mais de façon énorme, gigantesque, c'est celui-là. Pourquoi? Pourquoi celui-là en particulier? Eh bien, reportons-nous à la création du monde. Au moment de la création du monde, qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève existent seuls. Le serpent s'approche de la femme. Il essaye de la séduire. Nos maîtres diront dans la tradition orale que le serpent va tenter même d'avoir une union avec la femme. Elle va refuser. On est, rappelez-vous, dans un monde primitif, qui est même un monde intra-animal, qui est au-dessous du monde animal. Le serpent vient et va être pour la femme une sorte de facilité de concéder à la nature, à tous les actes qui tous les jours s'accomplissent, entre les plantes elles-mêmes, entre les animaux, entre eux, entre les animaux et les hommes, pourquoi pas après tout, pourrait se dire le serpent. Ève va refuser. Alors le serpent va utiliser une autre terminologie. Il va lui demander de goûter à un fruit interdit. Elle goûte à ce fruit interdit avec son époux, je passe très vite parce qu'on n'a pas le temps, et voilà que, immédiatement après, la nudité apparaît. Or, vous savez bien ce mot génial de la Torah, c'est le seul qui nous a valu depuis tout temps l'admiration de tous. S'ils pouvaient voir que tout le reste est à la hauteur de celui-ci, ils ne feraient qu'admirer la Torah. Pourquoi? Parce que les psychanalystes, les premiers, ont été ébahis de voir que la Torah a dit « Et ils virent qu'ils étaient nus. » Va ir'u ki erumim em. Ils virent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de prise de conscience de la nudité. L'animal qui se promène dans la rue ne voit pas qu'il est nu. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre sa conscience, pour une raison très simple, c'est qu'il n'en a pas, et la réalité de son corps. L'homme, lui, vit dans deux mondes à la fois. Il réalise qu'il est nu. Ça veut dire qu'il réalise que d'un seul coup, l'homme en tant que corps est fragile. Il est faible. Il est vulnérable, en un mot. Alors, comment nos maîtres vont traduire cela? Lorsqu'au début Dieu a créé l'homme, le mal n'était pas en lui. Le mal était à l'extérieur de l'homme. Le bien et le mal sont les garants de la liberté de l'homme, nous l'avons souvent dit. S'il n'y avait pas la possibilité de faire du mal, quelle dérision de faire du bien. On fait ce que, on va pas féliciter un chien d'aboyer. C'est sa nature. Si moi les mitzvot m'étaient naturelles, pourquoi me dit-on bravo quand j'en accomplis une? Si je fais une mitzvah, un acte de piété, c'est parce que j'ai envie du contraire. C'est parce que je peux faire le contraire. Donc, que le mal soit nécessaire est une évidence. Mais le drame, il s'est joué ici. C'est que désormais, après la consommation du fruit interdit, le mal n'est plus à l'extérieur de l'homme, il est à l'intérieur de l'homme. Et tout ce qui va se jouer au fond de lui va procéder de ce combat. Et c'est ça que nos maîtres ont appelé le Yetzer à Tov et le Yetzer à Ra. Ça veut dire la création, l'instinct, à l'intérieur de moi, d'une lutte permanente entre le bien et le mal. Et c'est ce qui fait qu'avec mon corps, les relations ne seront jamais simples. Ça veut dire que chaque fois que je vais me rapprocher de ce corps, puisqu'il est ce fameux écrin dont j'ai parlé tout à l'heure, ma relation ne sera jamais simple. Je vais tantôt l'idolâtrer, le caresser, l'utiliser pour un simple plaisir, vouloir exprimer à travers lui ma force, ma virilité, mon rêve, mon aspiration, ma frustration, tout ce que vous voulez. Et en même temps, c'est par ce corps que j'existe. Le jour où il ne sera plus, mon âme me quittera. Alors j'ai besoin de lui. Je me sens ataviquement attaché à lui. Je ne peux pas m'en passer. Et de notre côté, la Torah me dit, fais attention. Ce jeu-là est un jeu extrêmement dangereux. Dans la mesure où tu le laisses prendre le dessus, c'est le corps qui va mener le monde. Voilà pourquoi la Torah va demander que l'on secondarise, comme on dit en psychologie, c'est-à-dire que l'on place à un niveau non premier, non immédiat, toutes les relations physiques. C'est-à-dire, en termes clairs, que même un acte d'amour, si c'est un acte physique, ça veut dire un homme a un rapport avec une femme, vous croyez qu'il y a de l'amour là-dedans ? Aujourd'hui, le monde le dit, heureusement un peu, et encore, pas tout le monde, les intellectuels de haut niveau, honnêtes. Mais qu'est-ce qu'a toujours dit la Torah ? Dans un acte où un homme et une femme s'unissent sans amour, il y a deux égoïsmes superposés. C'est un acte d'isolement. Et c'est terrible. Malheureusement, ceux qui en ont fait l'expérience, ils ont le courage de le reconnaître en m'écoutant, ils le reconnaîtront. Cet acte-là est un acte purement animal. Ça veut dire quoi ? C'est un acte dans lequel il y a un défoulement physique, dans lequel il y a l'expression d'un besoin, dans lequel il y a un plaisir fugace qui échappe, et dans le cas duquel surtout il ne sort rien, il ne reste rien, si ce n'est l'envie de recommencer un peu plus tard. Or, qu'est-ce que la Torah nous dit ? Yada, et il connut sa femme, il vint vers elle. Ça veut dire que l'acte d'amour est une démarche. L'acte d'amour est un sommet. Il est une volonté de procéder à une intimité intégrale qui est le parachèvement d'un sentiment réel. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acte d'amour s'il n'y a pas de sentiment. Le sentiment, c'est-à-dire la prise de conscience de ce que l'on est, c'est ça que j'appelle ici sentiment, accompli dans un sens de responsabilité de l'acte, me permet de donner à cet acte toute sa plénitude. Et c'est ce qui fait la grandeur de cet acte-là. Quand les maîtres diront que le mariage s'appelle kiddushin, sanctification, quand ils diront que ça s'appelle Nisu'in, élévation, c'est pas des mots. Ça veut dire que l'homme et la femme sont capables, dans cette union physique, pourtant tellement apparemment humaine, profondément instinctive apparemment, non, elle n'est que la façade d'un rapport plus profond. Et vous le voyez bien, quelle extraordinaire beauté il y a, non pas dans l'esthétisme de l'acte d'amour, c'est pas celle-là dont parle la Torah, mais dans son aboutissement comme couronnement de toute une démarche intérieure. Et je crois que là, il y a sens. Là, il y a véritablement amour. Et c'est là où je vous avais dit la dernière fois que contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est pas dans des bouquins lus à droite et à gauche, plutôt à gauche qu'à droite, que vous trouverez la façon d'être heureux au plan physique aussi. Je crois qu'en piochant dans ce livre immense, pas seulement par sa taille, mais par son contenu, qui s'appelle le Talmud, mes chers amis, alors on réalise qu'est-ce que c'est que la grandeur d'une union. Et je pense que là, on découvre même son propre et son véritable épanouissement physique. Vous constaterez que toutes les lois de la Torah, et ce soir je voudrais vous en parler de l'une d'entre elles, vont nous aider à parvenir à cette dimension. Or, pour arriver à cette dimension, il y a une condition sine qua non, qui s'appelle la pudeur. Voilà pourquoi je l'ai mise en avant de cette explication. Pourquoi la pudeur est-elle une condition préalable? Parce que dès lors qu'il y a pudeur, ça veut dire qu'il y a respect de l'acte que j'accomplis. Lorsque j'essaye de découvrir qu'il y a autre chose qu'un simple défoulement dans un acte, ça veut dire que j'interpelle cet acte pour lui donner une autre signification. Je veux qu'à l'intérieur de cet acte, il y ait plus. Je ne dis pas qu'il ne doit pas exister ce qui doit exister. Ça veut dire, par exemple, nos maîtres vont donner des conseils que vous pourrez étudier, mais je n'en parle pas ici, pour que le couple arrive à un véritable épanouissement physique. Le Talmud, dans la Gemara de Nida, page 30, 31, entre autres, dans la Gemara de Shabbat, dans Hérouvine, dans de nombreux textes dont j'ai les références et je vous les donnerai volontiers, nous explique comment il faut que le couple réussisse à trouver son véritable accord physique, et que ça fait partie de la halakha, et que nos haramim disent veillez à ce que le rapport physique s'effectue dans un épanouissement mutuel. C'est pas moi qui jouis et elle, non, c'est pas elle qui jouit et pas moi, non, c'est les deux ensemble. Et tout ça, ça exige une science du rapport. Vous voyez que la Torah traite ce sujet. Elle dit pas il faut pas en parler, c'est pas cachère. Mais elle dit qu'il faut l'ennoblir, qu'il faut lui donner sa dimension de véritable découverte de l'autre. Cet amour n'est que l'aboutissement d'un autre amour. Et c'est ce premier amour qu'il faut avoir compris pour arriver au second. Oh, ce premier amour prend un temps fou. Voilà pourquoi l'épanouissement physique prendra du temps dans un couple juif qui respecte la Torah. Ça n'a pas d'importance, on a le temps. Je dirais même que c'est au bout de quelques années seulement que cet équilibre se trouve. Et qu'il n'y a aucun traumatisme à imaginer qu'on n'en est pas capable au début. Certains font des expériences après pour être sûr de réussir. Des expériences avant, pardon, pour être sûr de réussir après. Je crois qu'ils commettent exactement l'erreur à ne pas commettre. C'est au contraire en tentant des expériences qu'on essaye d'imaginer ce qui peut après devenir un rapport multiple. Il y a un corps qui unit un corps et il y a une tête qui est ailleurs. Ça, c'est dans la Torah considéré comme une abomination. Le rapport est une dimension exclusive qui consiste à fondre non pas des corps mais des âmes. Les mèches qui s'entremêlent avec l'huile qui les imbibe. Jamais. La mèche ne reste pas sans son huile. Il faut que la neshama, que le shemen, imbibe le corps. Ça veut dire que dès lors qu'il n'y a pas cette dimension-là, il y aura obligatoirement problème à terme. Et que l'amour deviendra ce que les nations du monde en ont fait. Une exhibition, une performance, une référence, que l'on montre, comme si on pouvait imiter l'autre dans ce domaine. Non. Moi, j'ai ma façon d'être, et je la garde pour moi. J'ai mon jardin secret, il m'appartient, c'est ma richesse. Je la partage qu'avec celle avec laquelle j'ai décidé de partager ma vie. Et c'est cette dimension-là qui consistera en une vraie richesse mutuelle. Cette dimension-là, dans la mesure où on sait lui conserver son caractère exclusif, au lieu de se trouver être comprimé dans un étau qui m'empêche de regarder à droite ou à gauche, je réalise que le vrai bonheur, il est là. Et qu'il n'y a pas de relation plus vraie, plus grande, plus géniale que celle-ci. Dès lors qu'elle est, bien évidemment, conçue dans cette dimension-là. Pour y arriver, qu'est-ce que la Torah nous a proposé? Elle a proposé en un mot une prise de conscience de quelque chose qui s'appelle l'anida. Alors l'anida, qu'est-ce que c'est? Il y a une prise en compte qui doit être d'abord évidente pour nous, de l'apparente imperfection physique du monde. Sans vous faire un cours de gynécologie, ce dont je serais capable à un certain niveau, des connaissances élémentaires d'anatomie et de physiologie me permettent de dire simplement que toute femme qui parvient à la puberté va donc éliminer ses ovules, ses œufs potentiels, ses ovocytes, qui peuvent donner naissance à une vie, qui peuvent être fécondés plus tard au moment d'un rapport. Que se passe-t-il en attendant? Eh bien, la muqueuse utérine s'enrichit de sang pour être prête, le cas échéant, à recueillir cet œuf fécondé qui va très vite devenir un fœtus. S'il n'y a pas fécondation, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un écroulement de cette muqueuse, de cette paroi de la muqueuse utérine, qui a besoin donc nécessairement de s'évacuer. D'où ce que l'on appelle les règles. Et c'est ça que la Torah appelle nida, c'est-à-dire une expulsion d'un sang qui est le produit de ce phénomène physiologique que j'ai très brièvement décrit, et que la Torah nous dit, à ce moment-là, la femme et l'homme ne peuvent avoir de contact physique. Et la Torah ajoute, il faut que cette élimination soit totale, que l'on veille à ce qu'elle soit complètement terminée, cette période, et que ensuite, on y ajoute 7 jours supplémentaires, à l'issue desquels, on procède à un bain rituel que l'on appelle le mikvé, sur lequel je reviendrai peut-être ce soir ou une prochaine fois, si nous n'avons pas le temps, parce que ça vaut la peine de dire des choses tellement fortes et grandes sur cette question-là, et que donc, à ce moment-là seulement, la vie conjugale peut reprendre. Que se passe-t-il donc? On voit que, d'un point de vue des biologistes aujourd'hui, et ceci depuis déjà des décennies, considèrent véritablement les règles comme quelque chose d'abominable. Pourquoi? Parce que c'est un terrible échec biologique. Est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer que, si le Créateur était tellement génial, qu'au lieu d'éliminer ce sang, il aurait pu être réintégré dans les cellules, récupéré autrement, il n'y a pas eu fécondation, et bien alors au lieu d'expulser ceci, alors on va le recycler à l'intérieur du corps de la femme. Ça aurait été une solution. D'ailleurs, il y a beaucoup de biologistes qui se sont employés à imaginer un processus artificiel permettant cette solution. C'est un petit peu comme si la nature faisait là une sorte d'immense gaspillage. Le sang, matière vitale, le sang, synonyme de la vie, qui obligatoirement est expulsé, c'est presque une atrocité, un drame. Ça a été vécu au plan médical, au plan biologique, si vous voulez, comme étant un échec. Nos Chachamim, non seulement n'en sont pas surpris, mais ils expliquent pourquoi. Pourquoi? Quand on revoit la Genèse, et que l'on donc, on se resitue par rapport au début de l'humanité, nos Chachamim disent, dans le Talmud, dans le Zohar, dans les Midrashim, qu'à l'issue de la consommation par l'homme et la femme du fruit, le fameux fruit de l'origine, il y a eu dans ce monde 40 dégradations qui se sont produites. 10 ont touché le serpent, 10 ont touché la terre, 10 ont touché l'homme, et 10 ont touché la femme. Puisque nous sommes sur ce point-là, l'une d'entre elles, c'est l'apparition de la menstruation. Idem, la Torah dira, c'est les difficultés de l'accouchement. Une femme aurait pu accoucher comme une poule pond son œuf. D'ailleurs, c'est l'expression que le Talmud utilise pour bénir une femme. Moi, chaque fois qu'une femme enceinte me demande une bénédiction, je suis toujours très honoré de pouvoir la donner, je lui souhaite d'accoucher comme une poule pond son œuf. Ça veut dire sans douleur, instantanément, et donc que cet acte naturel retrouve ses prémices. Pourquoi il en est différemment la plupart du temps? Pourquoi est-ce que les règles risquent d'être douloureuses? Par rapport et par référence à ce monde que l'homme et la femme ont détruit. La Gemara dans Kiddushin, page 82, va dire « Mais l'homme devrait se nourrir comme les animaux. Le renard ne va pas quémander sur les marchés européens. Que va être sa situation? Il n'y a pas de manif, vous n'avez jamais vu une manifestation de renards qui, défilant à l'appel de la CGT des renards, vont demander du travail. Les renards ne se battent pas pour 35 heures de travail. Et les patrons ne se battent pas pour que ceci ou cela. Pourquoi la vie est tellement compliquée chez l'homme? Ce que la Torah disait, Bezeat apecha. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Pourquoi? Parce que toi, homme, tu as choisi la facilité. Alors moi, ton créateur, je t'oblige à la difficulté pour que tu retrouves le bonheur. Le bonheur était dans ma nature. Mesurer le cataclysme de la première faute, je ne sais pas si vous voyez déjà tout ce qu'elle a pris cette première faute, terrible. Elle a modifié le cours naturel des choses, physiologique de l'homme, physiologique de la femme, physiologique, biologique de la nature. Elle a modifié l'instinct du mal qui à l'extérieur est venu à l'intérieur. Bref, elle a tout changé. Pour nous, c'est une catastrophe qui s'est produite à ce moment-là. Alors que faut-il faire? C'est perdu. Le péché capital, le péché originel, le boulet qu'on traîne. Évidemment, d'autres théologies se sont servies de ça. Que dit la Torah? Elle dit pas du tout. Nous connaissons la problématique, nous avons la solution. Que se passe-t-il dans l'histoire de l'humanité? Dieu dit à l'homme, très humblement, j'ai échoué. Khalila, je m'explique. Vainachem Hashem. Et Dieu regretta, dit apparemment la Torah, d'avoir créé l'homme. Parce que je viens de vous décrire ce qui s'est passé au niveau d'Adam. Mais mes chers amis, je vais vous donner un scoop. Je vous en prie, gardez-le pour vous parce que je ne voudrais pas que ça se sache à l'extérieur. Vous savez qu'après, ça n'a cessé de se détériorer. Dès que Adam et Ève ont deux enfants, Caïn et Abel, vous savez ce qui s'est passé? Je vous le répète, ça reste entre nous. Caïn a tué Abel. Le premier frère de l'humanité a tué son frère. C'est pas parce qu'il y avait du chômage. C'est pas parce qu'il y avait des immigrés. C'est pas parce qu'il y avait de l'inflation. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de terre. Vous imaginez un peu? Aujourd'hui, acheter 10 mètres carrés sur les Champs-Élysées, même si ça a pas mal baissé, c'est encore pas donné. Mais avant, il n'y avait ni les Champs, ni les Élysées. Partout. On pouvait se dire, bon, toi tu prends l'Afrique, moi je prends l'Asie. Toi tu prends l'Amérique, moi je prends l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez le kiff. On pouvait, avec un jet, un Concorde, faire le tour de ses propriétés toute la journée. Et on n'avait pas fini. Incroyable. Et ils ont trouvé le moyen de se tuer. Juste là, dans 2 mètres carrés. Quelque chose. D'où la plainte de l'homme. Lorsque Dieu ira dire à Caïn, où est ton frère? La réponse de Caïn va être cinglante. Il va dire, c'est pas moi, c'est toi. C'est ta faute. À toi le Créateur, pourquoi tu m'as créé comme ça? Pourquoi tu m'as créé? Souvenez-vous de l'image du Midrash extraordinaire que j'avais donné ici dans un cours. Le Midrash dit que la mort du premier homme ressemble à la parabole suivante, celle d'un voleur qui s'introduit dans un hangar, gardé. Il vole tout, et au moment de sortir, il se fait attraper par le gardien, lequel le traite de voleur. Et le voleur s'énerve et lui dit, mais moi je suis voleur, j'ai fait mon travail, toi tu es gardien, tu n'as pas fait le tien. Tu aurais dû m'empêcher de rentrer. Voilà à peu près ce que dit Caïn à Dieu. Il lui dit, mais pourquoi tu m'as créé méchant? Si tu m'avais créé sympa, tunisien, gentil, bon, normal quoi. Pourquoi tu m'as créé méchant? Et Dieu lui répond, précisément, non. Parce que la vie, c'est pas d'être gentil. C'est d'être méchant en devenant gentil. Ça veut dire que j'ai une terrible envie. Là, de temps en temps, il me prend une envie d'un steak au porc, au beurre, je vous dis pas. Voilà le juif. C'est celui qui dit, j'ai une envie terrible de faire cette bêtise. Et vous savez quoi? Je la fais pas. Là, le dialogue s'instaure. Dieu dit, ah, je sais à qui parler, parce que parler aux chimpanzés, aux girafes, aux rhinocéros, il sait, il connaît les réponses. Aolam kiminhago noreg, le monde suit son cours. Dieu dit, moi j'ai pas créé l'homme pour faire un animal de plus. Pour que quelqu'un me dise, dès que je vois passer une femelle, je me retourne, je connais déjà les animaux, j'ai ce qu'il faut. Dieu dit à l'homme, ne vous dérangez pas, j'ai ce qu'il faut. D'accord? Voilà pourquoi il va dire à l'homme, mais j'ai pour toi un projet infiniment plus vaste, infiniment plus grand, plus puissant. Tu vas montrer que tu es capable de ne pas ressembler au monde de la nature. Et comment tu vas essayer de ne pas lui ressembler? Puisque là, je viens de nous expliquer, l'homme et la femme, ils avaient pour eux le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ils avaient le jardin d'Éden. Ils pouvaient y faire tout ce qu'ils voulaient. Et Dieu lui dit, allez-y, cultivez-le, développez-le, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Regardez quel beau jardin je mets à votre disposition. Et le Midrash de nous dire que, par exemple, les plantes, avant la faute du premier homme, ne donnaient pas simplement des fruits ou des légumes. Par exemple, ils poussaient du pain, des brioches, du chocolat, des croissants, d'accord ? Des petits chinois, des petits pains, vous voyez, au raisin, d'accord ? Il y avait, dit la Guémara toujours, très, le plus sérieusement du monde, il y avait des robes. Au lieu d'aller faire la queue dans les magasins, galeries d'affaires, etc., on avait toutes les boutiques. Il y avait un arbre qui s'appelait Pierre Cardin, Christian Dior, etc. Et on allait, on choisissait. En plus, c'était gratuit. Il y avait des soldes permanents. Aucun problème d'aucune nature. Je ne sais pas si vous voyez cette vie-là, on en rêve. On en redemande. Quant aux voitures, messieurs, n'en parlons pas. Ferrari, vous achetez une Rolls, on vous offre une Ferrari, une Clio, qui a tout ce que les grandes. On se demande pourquoi acheter une grande, etc., etc. Tout, un Renault Espace, si vous avez de la famille, deux, si vous voulez, cinq, si vous voulez. Aucun problème, tout ça, gratuit. D'accord ? Mais mes chers amis, voilà le monde que l'homme a gâché. Alors Dieu dit quoi ? Vaïnachem Hashem. Et Dieu regretta. Ça veut dire quoi, il regretta ? Ça veut dire que il réalisa, entre guillemets, que le rêve qu'il avait caressé pour l'humain risquait d'être trop élevé. Et que il fallait peut-être renoncer à ce projet. Ce verset, moi, je le trouve comme étant le plus sublime de la Torah. Non pas parce qu'il avoue, phrase de Shalom, les limites de Dieu, mais sa vraie grandeur. La vraie grandeur d'un homme fort, dit le Talmud, c'est quand il n'utilise pas sa force. Vous savez, imaginez un colosse armé qui, bar minan, écrase la tête d'un enfant, comme ça se fait partout, ici et là, dans les pays que vous connaissez, où les plus forts écrasent les plus faibles. C'est pas cette image-là que nous on a de Dieu. Dieu, il tue pas les faibles, il les aime. Il les aide, il les sauve, il les crée. Et il sauve, et il crée un être, qui s'appelle l'homme. Et que c'est l'homme, il refuse d'être aidé par Dieu. Et il lui dit, moi je veux pas être créé. Ça m'intéresse pas ce monde que tu as fait. Je vais créer mon monde, moi avec mes envies. Alors c'est l'échec. Et Dieu dit, c'est dommage. Si ce n'est que dans cette nuit noire, qui va s'obscurcir, après Caïn, il y aura eu d'autres générations, il va y avoir des hommes, et on va nous les décrire dans la Torah, qui vont commettre les pires abominations, qui vont vouloir s'unir à tous les animaux, qui vont commettre tous les péchés du monde. On va arriver à l'humanité déshumanisée de Noé. Il va faire le déluge. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Va apparaître Abraham et l'histoire va recommencer. Dans cette dialectique, mes chers amis, comprenez qui est Israël. Israël, je pèse mes mots, c'est la deuxième chance de l'humanité. Le peuple juif, c'est le peuple qui va reprendre le défi. Le gant qui a été jeté, il le relève et il va dire à Dieu, ben on va essayer à nouveau. On va recommencer, on va créer un monde dans lequel, toi Dieu, tu ne vas pas désespérer de l'homme. On va essayer de créer ensemble un monde tel que tu le veux. Alors Dieu va accepter. Et il va donner la Torah. Et il va dire à ce peuple, ok, et cette alliance, moi je la retirerai jamais. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Il y en a qui se sont levés pour nous détruire. Il y en a qui ont essayé de nous faire douter. Il y en a eu des gens qui nous ont dit, Nida, vous plaisantez, enfin quoi? C'est pas possible. Pas d'hier. Rabbi Meir entendait autour de lui les hérétiques lui dire, mais enfin vous plaisantez, comment peut-on habiter avec une femme sans la toucher? Mais enfin, comment peut-on interdire des choses invraisemblables? La nature est là. Ne me dites pas que c'est possible. Et ce Rabbi Meir qui rappelait ce que je vous ai dit la semaine dernière, oui, la Torah a attesté, elle a témoigné de ce que nous sommes capables de cela. Et elle va donc donner les lois de Nida, pour prendre l'exemple que je vous donne. Et la loi de Nida, qu'est-ce que c'est? C'est la récupération, entre guillemets, de la prise de conscience, de l'échec, entre guillemets, de la biologie, cette paroi utérine qui s'écroule et qui disparaît, c'est pas une malédiction. C'est une mitzvah. D'un coup, ce qui est apparemment échec devient mitzvah. Et moi, qu'est-ce que je vais prouver, tout petit homme que je suis, grain de poussière que je suis? Je vais prouver au Créateur que je suis capable de prendre cette réalité biologique et au lieu d'en faire une malédiction, au lieu d'en faire comme on en a fait dans l'humanité, dans les civilisations primitives, où la femme qui était menstruée était considérée comme un paria, un être à part. Et c'est là, mes chers amis, où j'insiste, parce qu'on commet une lamentable, une dramatique erreur à l'égard de l'appréciation qu'a la Torah de cette dimension-là. Jamais la Torah ne parle comme ça de la femme, Nida. Elle dit Nida, ça veut dire quoi Nida? Nida, ça veut dire c'est vrai. Celle qui est Nada, ça veut dire en hébreu, Nun Dalethe, celle qui erre, qui est en errance. Elle est en déplacement, littéralement. Ça veut dire quoi? C'est vrai, la réalité biologique est ainsi faite. Et moi, je comprends très bien la réaction des femmes modernes qui veulent minimiser les dégâts de la Nida, qui veulent recouvrer leur dignité, leur autonomie, qui veulent continuer à travailler, à vivre, à exister, mais la réalité est là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore ou on fait avec? La Torah dit, avouer sa fragilité, reconnaître qu'à ce moment-là, parce qu'il y a un jeu de glandes qui s'opère, parce qu'il y a un mécanisme qui se déroule à l'intérieur de mon corps, que mon psychisme soit différent, quel mal y a-t-il? Quelqu'un qui a mangé quelque chose qu'il n'a pas digéré, il n'est pas bien. Allez discuter avec quelqu'un qui a fait une mauvaise digestion, vous allez voir. Ça va mal se passer. Est-ce qu'il faut avoir honte de cela? La Torah ne dit pas du tout. Il faut faire un régime. Il faut adapter mon comportement à cette réalité. Et au lieu d'en faire un sujet tabou, au lieu de dire Nida ne connaît pas, la Torah va dire non seulement je connais, mais je comprends. Et je veux essayer de comprendre. Et je veux essayer d'approfondir pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'une femme vit cet état-là, et qu'est-ce que je peux moi en comprendre et en vivre. Alors voilà pourquoi. La Torah dit premièrement, si tu veux comprendre et vivre, alors il faut te distancier physiquement. Pour une raison très simple. Un maçon qui bâtit une maison, il ne la regarde jamais puisqu'il est dedans. Dans un couple, pour se comprendre, il faut parfois s'éloigner un peu. Je pense qu'une des vraies dimensions de l'amour, c'est l'éloignement provisoire. Pourquoi? Dans l'éloignement, qu'est-ce qui se passe? Trois choses, successivement. La première, évidente, c'est la frustration. Comment je suis marié avec une femme, je l'aime, elle m'aime, on a tout envie de rester ensemble, et la Torah nous dit, stop, coupez vos relations. Quel est mon premier sentiment? Frustration. Je me sens en manque. Je me sens comme si on m'imposait quelque chose que je n'avais pas accepté. Or l'homme a horreur de cela. Depuis qu'on est tout petit, vous savez bien le premier mot qu'on a dit? Non. On avait 3 ans, vous vous rappelez pas? 2 ans même certains. Non. Quoi, je vais affirmer que j'existe? Comment j'affirme que j'existe? Par la désobéissance. Je refuse ce que l'on m'impose. Alors premier élément, la Torah m'a dit tu te sépareras. Je refuse. Et je peux tout de suite vous rassurer mes chers amis, si vous avez vécu Nida, et que vous l'avez expérimenté comme je dis, c'est pas grave, c'est normal. Je dis même que c'est sain, S-A-I-N. Il faut ajouter maintenant un T à la fin. Comment? C'est la deuxième dimension. Au bout de quelques jours, s'élabore à l'intérieur de l'être humain une deuxième mentalité. Non plus celle de la frustration, mais celle d'un certain confort. Pourquoi confort? Parce que j'aime bien me retrouver dans mes propres limites. Qu'est-ce que c'est que l'intimité d'une femme? Et ça, je crois que les hommes ont tendance à l'oublier. Respecter sa femme, dit le Talmud, c'est respecter son intimité. Ça veut dire quoi, respecter son intimité? C'est-à-dire accepter qu'elle ait des choses qu'elle ne partage pas avec moi. Ça fait partie de la grandeur d'un être humain. C'est frustrant, me direz-vous, messieurs, de ne pas considérer que mais la femme n'est pas une chose, elle n'est pas un objet qu'on a acquis, elle n'est pas prestateur de service. Elle n'est pas là simplement pour me donner ceci. Il faut que j'accepte de comprendre qu'elle est dans un état, non pas qui la diminue, mais qui va l'agrandir. Et ça, j'y arrive tout de suite. Et pendant qu'elle est dans cette période de fragilisation, comprendre qu'elle a besoin de son intimité, de son territoire, c'est extraordinaire ce que ça développe la personnalité. Je crois que tous les enfants du monde, hommes ou femmes, ont eu besoin à un moment donné de leur vie de sentir qu'ils s'appartenaient à eux-mêmes. Je dirais que les seuls hommes, qui sont riches psychologiquement, ce sont des gens qui se sont émancipés la dépendance des autres. Dès qu'une femme vit sa vie telle que la Nida lui propose, ça veut dire dans son intimité, dans sa solitude, elle existe. Parfois dans la solitude, mes chers amis, au lieu de pleurer, on se construit. Je crois que quelqu'un qui est seul apprend aussi à devenir adulte. La solitude, c'est l'âge adulte. Ça veut dire qu'un vrai adulte, c'est quelqu'un qui sait rester seul. D'ailleurs, c'est la définition, je crois, d'un petit enfant. Tant qu'il faut le garder, c'est qu'il est encore un enfant. Et si vous comprenez bien la symbolique, ici dans le couple, que chacun reste un peu seul, ça veut dire que chacun est un être autonome. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Mais ça ne doit pas durer. Troisième phase de l'anida, qui se succède évidemment tout de suite, c'est l'attente. C'est l'impatience. Et ça, c'est le sel de l'amour. Il n'y a rien de plus excitant que d'attendre. Tout l'art de l'amour, c'est d'attendre. Toute la difficulté de l'homme, c'est d'attendre. L'homme, dit la Guémara, est l'être le plus impatient de la création. L'homme ne sait pas attendre. D'ailleurs, même dans son processus physiologique, sexuel, le vrai problème de l'homme, c'est l'impatience. Et la Torah lui apprend à attendre, l'oblige à attendre. Vous comprenez? Et cette dimension-là, elle crée des sentiments qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses, et qui vont donc créer une dynamique. Et c'est cette dynamique-là qui garantit un bonheur à terme. Alors, si je me suis bien expliqué, ça veut dire qu'au lieu de vivre cette situation comme une brimade du côté de la femme, comme un échec du côté de l'homme, comme une sorte de manque, de frustration seulement, la Torah nous invite à la vivre avec plus de profondeur pour en comprendre la signification et donc la portée. Quand on arrive à ce stade-là, quand on arrive à cette dimension-là, la retrouvaille est d'une telle intensité que comme deux corps qui se sont séparés ont toujours envie, besoin, parce qu'ils sont différents, de se retrouver le plus et le moins, les pôles contraires qui s'attirent, c'est la loi de la vie. Cette dimension-là jouera à plein tube. Elle sera véritablement la retrouvaille de l'union telle qu'un fiancé a voulu se marier. Et vous connaissez tous, vous rappelez tous, ceux qui ont été mariés, de l'impatience du mariage, de toute cette attente et de toute cette extraordinaire tension qui précède la retrouvaille. Voilà ce que mes chers amis disaient Rabbi Meir Baal Hanes, un homme dont la sainteté est telle qu'il continue d'être vénéré 2000 ans après sa mort par tout le peuple juif. Et c'est lui qui s'exprimait en ces termes. Il disait, moi, au jour où je retrouve mon épouse, je l'aime comme au jour de mes noces, après 10, 20, 30 ans de mariage. Ça veut dire que cette dimension-là est une sorte de traduction positive de la fracture qui s'est produite au moment de la faute de l'homme. Et voilà qu'est-ce que c'est que le génie, la grandeur de la Torah. C'est qu'au lieu de constater l'échec de l'humanité et de voir que l'homme est un simple animal qui a envie d'eux, etc., etc., au lieu de constater que Dieu nous a punis et qu'il a fait que la femme avait tel phénomène physiologique et qu'il fallait le camoufler parce que c'est ce que fait la civilisation d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait pour les jeunes femmes? Elle les invite à prendre la pilule. Elle les invite à diminuer la portée de tout ce phénomène physiologique. Comme s'il fallait, de façon moderne, le camoufler. C'est-à-dire que c'est exactement la même dimension, mais modernisée, que celle des civilisations primitives. Or, la Torah ne dit pas du tout. Il faut arriver à le prendre en compte, à vivre avec, et à le transformer en une sorte de solution d'amour qui permet au contraire au couple de vivre une vie de rythme qui évite la monotonie, l'ennui, parce que je crois que dans un couple, le cancer, c'est l'ennui. Et tous les couples qui se séparent sont des couples qui se sont ennuyés ensemble. Et le meilleur moyen de s'ennuyer ensemble, c'est d'être toujours ensemble. Même quand on s'aime à la folie, même quand au jour de son mariage, on ne voyait pas le monde 5 minutes sans elle ou sans lui. Tous ces couples-là, moi je les connais. 20 ans après, il faut les voir. Non. C'est pas cet amour fou. Cet amour fou, c'est un amour brûlant, dévorant, qui consume l'autre. Non, il ne faut pas consumer ni consommer. Il faut savoir trouver une autre dimension. Et celle-là qui consiste en une maîtrise de soi, en une volonté de découvrir autre chose, vous le voyez qu'elle ne frustre rien des retrouvailles, et que lorsque la Torah nous parlera au moment des rapports de la pudeur nécessaire, elle n'élimine pas la dimension du plaisir. Elle ne considère pas que le plaisir est quelque chose de malsain. Elle ne le considère pas comme étant à évacuer de la vie. Non, mais elle connaît les dangers de la recherche du plaisir. Voilà pourquoi elle le gère, voilà pourquoi elle l'endigue, mais elle ne l'étouffe pas. Et je crois que comprendre ça, c'est avoir compris pourquoi le peuple juif s'en est sorti dans ce domaine-là, et qu'il a trouvé un équilibre extraordinaire. Maintenant, permettez-moi de vous dire non pas une découverte récente, mais un constat dont je n'ai pas besoin, moi en tant que juif, pour dire ce que je pense. Dans les mitzvot de la Torah, il y a des choses compréhensibles, dont on ose parler. Par exemple, on est tous très fiers de dire que la Torah est une loi qui nous demande d'aimer notre prochain, qui nous demande de respecter nos parents, qui interdit l'homicide, le vol, l'adultère, tout ça, c'est compréhensible. Mais à l'expliquer à la télévision, comme j'ose le faire moi ici, que Nida c'est une règle moderne, plus moderne que ça tu meurs, et que il n'y a jamais rien eu de plus moderne que la loi de la Nida, ça qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement une chose, ne pas avoir besoin de se démontrer soi-même. Je me méfie des gens qui vous démontrent les choses avec trop de brio. Parce que je crois qu'une conscience qui est sereine, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver qui il est. Vous avez deux types de gens, ceux qui constamment veulent montrer qu'ils ont raison, et ceux qui le vivent avec un tel naturel que ça émane d'eux-mêmes. J'aimerais que nous soyons de cela. Et cette dimension-là, qui s'appelle en hébreu pourtant « chukim », c'est quoi? C'est tout simplement que j'ose dire que je crois en Dieu. J'ai pas honte, vous savez. J'ai pas honte de dire que je crois en Dieu, pourquoi? Parce que pour moi, toute cette compréhension de Dieu, elle vient d'un texte biblique dont j'estime encore aujourd'hui qu'il n'a pas été altéré, ni dans sa forme, ni dans son fond, et qu'il a été transmis avec fidélité par des générations et des générations, et que lorsque moi aujourd'hui, juif de 1998, je vis les règles de Nida, je suis en cela tout simplement fidèle à l'Éternel, qui n'a pas eu besoin de dire, vous savez les enfants, je vous demande de manger cachère parce que manger cachère, santé de fer. Genre, slogan. Manger cachère, c'est moins cher. Vous voyez, genre, slogan. Non. Pourquoi va-t-on se justifier de manger cachère? Dites-moi. Qu'on en trouve des explications a posteriori, tant mieux, si ça peut convaincre quelques sceptiques. Mais c'est pas ça qui est le fondement de l'application de la règle. Alors moi aussi je dois donner simplement un exemple. Je viens de prouver, sans vouloir démontrer, qu'à mon humble avis, l'équilibre d'un couple dépend des lois de Nida. Non pas s'accommode des lois de Nida, mais dépend des lois de Nida. C'est par les lois de Nida qu'il y a équilibre dans les couples. Un. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que ça va plus loin. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un organisme qui nous adore. Mais alors, qu'est-ce qui nous aime? Il s'appelle l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Systématiquement, Israël est passé au crible des critiques, de façon parfois tellement honteuse qu'on finit par douter du sérieux de certains, en tout cas, compartiments de cet organisme. Eh bien, mes chers amis, il faut quand même rappeler que l'Organisation Mondiale de la Santé, qui apparemment est objective, est obligée de reconnaître les statistiques. On ne peut pas fausser les chiffres. Eh bien, sachez que, par exemple, le cancer de l'utérus est le moins fréquent dans le monde en Israël. Et lorsque les chercheurs de l'OMS, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas philosémites, qui sont même plutôt, disons peu sympathisants, eh bien, on cherchait à comprendre pourquoi. On cherche dans une nation l'unité culturelle, l'unité politique, l'unité sociologique, l'unité d'origine. Comment expliquer en Israël? Les gens d'Israël, vous savez d'où ils viennent? Du Yémen, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, partout dans le monde. Quel est leur niveau culturel? Il y a de tout, des génies et des gens simples, des gens riches et des gens pauvres. Quel était le point le plus commun entre eux? La pratique d'un certain nombre de rites, comme ils disent. Et ils ont constaté que d'une part, la circoncision, mais là, c'était moins évident, le mikvé, d'autre part, constituait indéniablement une explication plausible. Et la raison, moi j'en ai discuté avec plusieurs médecins spécialisés sur la question, leur apparaissait évident. J'ai parlé tout à l'heure de la fragilisation. Au niveau vaginal, l'expulsion de cette paroi, de la muqueuse, de la paroi utérine, provoque indéniablement une irritation, donc une fragilisation. Et qu'à ce moment-là, avoir des rapports immédiatement après les règles constitue pour la femme indéniablement un danger supplémentaire. Et que la Torah nous demandant de nous abstenir pendant 7 jours après, a, entre guillemets, sans le vouloir, indirectement, protégé la femme. Et la constatation, médicalement, s'impose. Je vous répète, je n'ai pas besoin de ça pour pratiquer les règles de Nida. Mais, comme le diront d'autres, notamment le Rambam, Dieu ne peut pas avoir donné à son peuple une loi qui lui fasse du mal. Si dans la Torah il y a des règles, par exemple d'hygiène, quand on nous demande de nous laver les mains avant de manger, c'est pas parce que c'est hygiénique. Netilat yadaim n'a rien à voir avec l'hygiène. Mais de facto, on ne peut pas faire netilat yadaim, c'est-à-dire l'ablution rituelle avant de manger du pain, sans avoir les mains propres. Donc si vous avez des taches de cambouis, de graisse, de stylo, de ce que vous voudrez, il faut d'abord vous laver les mains, et puis ensuite procéder à la netilat yadaim. Résultat, lorsque au Moyen-Âge, il y avait des populations entières qui avaient la peste, les seuls qui n'avaient pas la peste, c'était les juifs. Et vous savez ce qu'on en a dit? C'est eux qui nous la donnent. C'est authentique. Jusqu'en 1720, la fameuse grande peste, on a exterminé des communautés juives, sous prétexte que c'était elles qui donnaient la peste parce qu'elles ne l'avaient pas. Vous voyez la logique? C'est la logique de l'antisémitisme d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi on n'aime pas les juifs? Il n'y a pas de raison. C'est clair. Il n'y a aucune raison, et surtout ne cherchez pas. Vous perdriez un temps précieux, la vie dure 120 ans. On va perdre du temps à chercher à comprendre l'antisémitisme. Il n'y a pas de raison. Et la Gemara dans Shabbat l'a dit. Consultez la Gemara page 89 Shabbat, et vous verrez là-bas, elle dit, il n'y a pas d'explication en antisémitisme. Si une, c'est que nous sommes juifs. C'est la seule explication. Le seul moyen de supprimer l'antisémitisme, c'est de supprimer les juifs. Et là, il n'y a plus aucun problème, je vous promets. Mais mes chers amis, tant que nous existerons, et le drame, je l'ai dit pour nos ennemis, je comprends qu'ils aient parfois un peu d'insomnie, et souvent il m'arrive de faire une minute de silence pour les antisémites, parce que je pense qu'ils doivent déprimer, très franchement, parce qu'ils voient qu'ils n'en finissent jamais avec nous, et je voudrais les prévenir solennellement, ils n'en finiront jamais. Pour une raison très simple, c'est que Dieu a promis que nous serions éternels, et nous le sommes. Donc, liquider les juifs, c'est impossible. Malheureusement, on peut en exterminer certains. On peut leur faire beaucoup de mal. Et ça, il faut l'éviter. Je pense que pour l'éviter notamment, il faut peut-être que ce peuple juif-là réalise avec un peu plus de flamme de la grandeur et de la conscience qu'il doit avoir de son rôle. Et ce rôle, voilà pourquoi nos maîtres disaient, il est passé par la conservation de ces lois. Je voudrais simplement, enfin, essayer de vous indiquer, parce que j'ai tant de choses à vous dire que j'en ai mal à la tête, vous dire combien le fait d'avoir eu recours à ces pratiques-là a été pour nous salvateur. En fait, si je devais résumer un petit peu le point de la situation dans laquelle je me suis mis jusqu'à présent, je dirais que il s'opère dans la pratique de cette mitzvah une sorte de double chance, de nouvelle chance, qui est donnée à l'homme de renouer son contrat avec la création du monde. En pratiquant Nida, on dit à Dieu, tu t'es pas trompé. Nous les hommes, nous ne sommes pas des animaux, et nous voulons te prouver par ce qui constitue pour l'homme la source principale de son échec, que nous sommes capables de réussir. Car en effet, mes chers amis, voilà ce qui se passe dans ce domaine-là. C'est que c'est un domaine dans lequel, s'il était l'une de nos fonctions, comme la digestion ou le reste, bon, on en parlerait un peu, si ça vaut la peine. Imaginez que j'intitule mon prochain cours « La digestion ». Bon, il y aura peut-être quelques gastro-entérologues qui nous feront l'honneur d'être là, mais c'est pas un problème qui travaille les gens. Bon, on a des petites difficultés ou des petits problèmes, ça peut se résoudre. Mais ce problème-là, c'est le problème de tous les enjeux. Pourquoi? Parce qu'à la fois, c'est là que naît le désir le plus violent. C'est là que naît le plaisir le plus intense. C'est là que naît le pari le plus invraisemblable, à savoir la venue de la vie. Ça veut dire que par le rapport sexuel que fait l'homme, il engendre une image de Dieu, un enfant. La naissance d'un enfant est la résultante de ce contact, de ce rapport. Ça veut dire que le pari est énorme, énorme. C'est-à-dire qu'on donne la vie ou on tue la vie. Ça veut dire que dans les civilisations, par ce domaine-là, ou bien on aboutit à un échec lamentable, ou bien on engendre l'homme. Et moi je voulais vous dire, et je voudrais vous dire, parce que ce sera l'objet de, je vais l'annoncer dans un tout petit instant, de nos prochains cours, que c'est en rétablissant, en restituant, en comprenant qu'est-ce que c'est qu'une famille, qu'on va sauver l'humanité. Moi je suis persuadé que le rôle du peuple juif, indirectement, sans conquérir le monde, sans convertir le monde, sans être un donneur de leçons, peut réussir à assumer la plénitude de sa mission. Tout simplement par l'exemple. Je crois que la vocation qui est la nôtre, elle est très simple. Être nous-mêmes. Nous n'avons pas à imiter ce que le monde a nous apporté. Nous avons essayé d'incarner nos valeurs spécifiques et par là même, redonner raison, si j'ose dire, à Dieu. Si j'ai présenté la Torah comme étant la seconde chance du monde, la capacité de renouer un contrat avec le Créateur, la loi par laquelle tout va passer, c'est celle-ci. Et je voudrais vous donner un tout petit exemple historique. Vous savez qu'il y a eu, il y a seulement quelques années, des fouilles archéologiques dans un rocher impressionnant qui surplombe la mer Morte. Ce rocher s'appelle Masada. C'est là-bas que s'est édifiée une citadelle qui a résisté longuement à l'époque romaine aux derniers assauts qui étaient malheureusement destinés à exterminer toute résistance militaire juive de ce temps-là. Ça s'est terminé dans un bain de sang. Et vous savez que les derniers habitants de Masada se sont donné la mort jusqu'au dernier. Il n'y a pas eu de survivants à Masada. Elle est considérée quelque part comme l'une des symboliques de l'héroïsme physique du peuple juif face à un envahisseur qui voulait sa perte. Savez-vous, mes chers amis, parce que de ça, peut-être que les journaux à grand tirage ne parlent pas, qu'on a trouvé à Masada deux mikvés, deux bains rituels, qui sont, dans leur conception, rigoureusement conformes aux mikvés que nous fabriquons, entre guillemets, aujourd'hui encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Masada, dans le périmètre de la mer Morte, là où l'eau de pluie a une valeur inestimable, où chaque goutte compte, il y a 2000 ans pratiquement, une petite communauté juive était capable, alors qu'elle avait d'autres urgences, il y avait à consolider les murailles, à fortifier les faiblesses de ces murailles, à former des soldats aguerris, à affûter des armes, à se procurer des vivres, à amener de l'eau potable. Ils avaient quand même trouvé la force, l'énergie, le courage de faire à Masada deux mikvés. Moi je trouve cet exemple absolument extraordinaire. Je crois qu'on ne parle pas assez de ça, de voir comment s'est organisé l'héroïsme spirituel des combattants de Masada. Je vous donne un deuxième exemple. Depuis 1917 jusqu'à 1989, le judaïsme, comme toutes les autres religions, était interdit en Union soviétique. Vous savez qu'il y a eu des juifs qui ont fait de la résistance. Et ils étaient plus nombreux qu'on l'imagine. Parmi eux, il y en avait un, entre autres, qui aujourd'hui, grâce à Dieu, est en Israël, et qui a élevé une belle famille, tous pratiquants de la Torah. Eh bien, un jour a raconté un rabbin qui s'était introduit clandestinement en Russie. Il est arrivé chez cet homme qui, au bout d'une longue conversation, était mis en confiance. Et lorsque il allait le quitter, il lui a dit, avant que vous ne partiez, je voudrais vous montrer quelque chose. Voilà qu'il entraîne notre rabbin dans un recoin de sa maison. Il ouvre un placard. Derrière le placard, il déplace différentes caisses, et au bout de tout cela, il trouve au sol une trappe. Il soulève cette trappe, et il découvre des escaliers qui menaient comme dans une cave. Et au bout de quelques marches, notre rabbin ébahi découvre une poche d'eau naturelle, et cet homme lui dit, c'est notre mikvé. Et il lui a raconté pendant un long moment, comment, dans une maison bien évidemment d'État, puisque à l'époque, personne n'était propriétaire de sa maison. Vous aujourd'hui, vous avez un petit pavillon dans la vallée de la Chevreuse, rien ne vous empêche d'aller commander vos matériaux et faire des travaux. Mais là-bas, il disait, chaque poignée de mortier, chaque litre d'eau, chaque petit morceau qu'il fallait apporter, il fallait donner l'explication. Il fallait creuser sans que les voisins ne s'aperçoivent. Et la construction de ce mikvé a pris à cet homme des années. Et quelle était sa fierté d'avoir fait le seul mikvé clandestin de l'ancienne Union soviétique. Partout là où il y a eu des juifs. Le Shulchan Aruch dit, dans le paragraphe 468 des règles de Or HaChaim, que avant même de faire une synagogue, quand des juifs arrivent quelque part, ils doivent construire un mikvé. Ça veut dire que cette dimension de la purification passe par une règle incontournable qui s'appelle le mikvé. De cela, je veux simplement vous dire un mot en conclusion, parce que le mikvé, je le respecte trop, et vous sûrement aussi, pour l'expédier en 5 minutes. Mais je peux vous promettre qu'avec l'aide de Dieu, un cours sur le mikvé a tout ce que l'on peut imaginer de passionnant. Mais de véritablement passionnant. Comprendre le mikvé, c'est une aventure. C'est quelque chose d'inouï, qui peut constituer pour nous une indéniable fierté. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'hygiène, et tout le monde prend un petit robinet, un petit morceau de fer qu'on appelle un robinet, soulève, et merveille, l'eau potable rentre chez lui. Et les gens vous disent souvent, mais enfin, écoutez, monsieur le rabbin, je comprends dans l'Antiquité, mais aujourd'hui, ben, il faut prendre un bon bain, dans sa baignoire, une bonne douche, bien frotter comme il faut, et puis, c'est terminé. Non. On prend son bain, on prend sa douche, avant de se rendre au mikvé. Le mikvé n'a rien à voir avec un bain au sens hygiénique du terme. Il est la découverte d'une autre dimension qui littéralement relève de la métaphysique. Donc je vous répète, il est beaucoup trop tard pour que je commence à l'évoquer. Je veux simplement dire ce soir un mot de cette aventure extraordinaire qui s'appelle le mikvé. C'est que cette dimension de purification qui passe par une immersion totale. Elle rappelle ce qui doit être pour nous la vraie dimension de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Je vais vous dire la seule expérience que vous et moi on n'a jamais connue. Vous la connaissez, enfin vous en connaissez le nom et moi aussi, mais on n'a jamais vécu. Je suis sûr que lorsque je parle à quelqu'un, il y a au moins une chose qu'il ne sait pas. C'est la mort. Parce que s'il l'avait connue, il ne serait pas là pour en parler. Et nos maîtres disent que pratiquer un mikvé pour une femme, c'est mourir et renaître chaque mois. C'est redécouvrir, quoi? Une dimension qui est capable de donner à un être humain un changement de statut. Ce changement de statut, avec un T à la fin, veut dire que lorsque Dieu a créé le monde, personne ne peut ignorer, c'est le deuxième verset de la Bible, qu'il est dit, et le souffle de Dieu planer à la surface des eaux. L'eau est le premier élément créé par Dieu. L'eau, c'est l'élément vital, c'est l'élément primordial, au sens étymologique, qui était avant tout le reste. C'est l'élément par lequel l'homme recouvre une certaine dimension. On le sent au plan simplement physique, quand on rentre arraché d'une journée de travail, quand on a accompli un effort physique extrême, quand on a couru, quand on s'est fatigué, qu'on rentre chez soi et qu'on prend une douche ou un bain qui nous rétablit, on a l'impression, quelque part, pendant quelques minutes, de renaître. Mais on n'est pas mort, on était fatigué. On était un petit peu sali physiquement. C'est pas ça le mikvé. Le mikvé, c'est la capacité de revitaliser toutes les dimensions spirituelles de mon individu. Comment? En m'apprenant ce qui est la règle de la vie qui nous permet à nous juifs d'échapper à la mort. C'est que la mort, elle ne fait pas partie de ma vie. Je m'explique. Ce qui fait, je crois, que toutes les vies échouent, c'est que l'homme a peur de la mort. Mais il en a tellement peur qu'il ne veut pas en parler. Qu'il veut éviter le sujet. Vous avez remarqué que les cimetières étaient toujours cachés. Que les cimetières sont des lieux maudits. Que dans toutes les civilisations, la mort est entourée de mystères. Et qu'on n'en parle jamais. Or, dans le judaïsme, non seulement la mort, on en parle, mais on apprend à ne plus avoir peur de la mort. Je dirais qu'un juif pieux est quelqu'un qui a le courage d'affronter la mort en face. Pourquoi ? Pour lui, elle est dérision. Elle signifie passage. Elle signifie que l'homme est capable, après une phase difficile, de se retrouver plus grand qu'il n'est. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mitzvah qui nous a peut-être dans notre héritage, que j'appellerais, pardonnez le pléonasme ou le néologisme, hein, peut-être parce que dans notre héritage génétique spirituel, on a intégré, nous juifs, un certain nombre de données, l'amour de la justice. Un juif, on n'a pas besoin d'expliquer longtemps qu'il doit être juste. La générosité. On n'a pas besoin de lui expliquer longtemps qu'il doit être généreux. On n'a pas non plus besoin longtemps de lui expliquer qu'il doit être courageux. Ça fait partie des vertus que la Torah nous a communiquées collectivement, que nous soyons pieux ou pas, que mes parents l'étaient, ou mes grands-parents. Mais quelque part, si je suis encore juif, c'est parce que eux, ils étaient ce que je viens de décrire à l'instant. Et l'une des façons qu'ils ont eu de l'être, nos parents, parce que si ce n'était pas vos parents ou les miens, c'était peut-être nos grands-parents, mais sûrement au plus à la troisième génération, je suis sûr, mesdames et messieurs, que nos parents ici ont pratiqué un jour le mikvé. Pourquoi ? Parce qu'en vous regardant, on voit que vous avez envie de vivre. Quand on a envie de vivre, c'est qu'on a intégré que la vie était plus forte que la mort. Et quand on intègre ça, quand on rentre dans l'eau, le bain, avec tout ce qu'il a comme délice, comme détente, comme relaxation, c'est peur. Pourquoi ? Parce que le bain, c'est l'apnée. L'apnée, c'est l'absence de respiration. L'homme sous l'eau est mort. Un homme qui se noie, et on se noie très vite, quelques secondes suffisent à éliminer la vie. C'est ça le mikvé. C'est une mort intérieure qui s'opère en nous. Et qui, pourquoi est-elle nécessaire ? Parce que précisément dans la poursuite de la logique de ce que nous avons dit de la Nida tout à l'heure, qui expulse à l'extérieur d'elle, non pas une vie inutile, mais une vie dont elle a été le filtre et qu'elle n'a pas laissé transformer en vie effective, biologique, cette expérience-là que la femme vit, elle a besoin de s'en relever. Et je crois que ceci, cette expérience-là, c'est celle qu'une femme doit faire dans sa vie. Toute femme qui est née et qui un jour est devenue pubère devient Nida. Et qu'il faut qu'elle sorte de cet état de Nida. Ça veut dire que cette errance qui est la sienne d'un être fragilisé a besoin de retrouver ses forces dans la capacité de donner la vie. Même les femmes qui n'ont jamais été mères. Même celles qui ne le seront jamais. Même celles qui sont stériles. Peuvent être les mères de notre peuple. Qu'est-ce que je veux dire par mère ? Celle qui nous donne la force de ne plus avoir peur de la mort. Et je pense que c'est ce qu'une femme apprend. Je pense qu'une femme est un être rassurant. C'est ce qu'elle doit être. Si les femmes deviennent inquiètes, c'est le monde tout entier qui s'écroule. Contrairement à ce qu'on croit, mesdames, les hommes n'attendent pas de vous que vous soyez un agrément de la vie, un bijou. Quelque chose de beau qui s'expose, ou un objet dont on tire un plaisir. Je crois que l'homme a besoin d'être rassuré par une femme. Et que de la même façon que nos mères nous ont consolés quand on a pleuré enfant, nos femmes ont besoin de nous donner espérance quand on connaît des échecs, ce qui est le propre de toute expérience humaine. Et ça, c'est pour moi le sens symbolique de la période de Nida. Ça veut dire la capacité qu'a une femme de voir quelque chose mourir en elle pour apprendre à l'homme qu'elle était plus forte que la mort, qu'il doit continuer à aimer la vie. Voilà.